Bonjour à tous.
Bonjour également.
Peut-être que nous allons commencer, parce que de toute façon, c'est, vous n'avez pas forcément besoin de projeter des choses derrière nous. Séverine, tu veux faire la présentation de qui nous sommes, de ce qu'est la Bulac?
Oui, avec plaisir.
Ça va être un petit peu improvisé. N'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions, parce que en fait, nous travaillons beaucoup pour monter de version en ce moment. Il n'y a pas eu beaucoup de temps passé à préparer cela, mais nous avons vraiment beaucoup de choses à dire sur Elasticsearch. Donc, n'hésitez pas à nous arrêter, à échanger avec nous.
Donc, dans les grandes lignes, pour ceux qui ne connaîtraient pas très très bien la Bulac, c'est un établissement qui a été fondé en 2011 suite au regroupement de plusieurs des collections en provenance de 19 institutions différentes. Donc, le cœur historique est constitué par les collections de la Bibliothèque des langues orientales qui avait été fondée sous Colbert, et on a récupéré des collections qui venaient d'un centre de la bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle, donc l'Institut des études iraniennes. On a récupéré des collections de la bibliothèque de la Sorbonne, donc un fonds slave. On a récupéré pas mal d'ouvrages qui venaient comme ça de pas mal d'institutions. Donc c'est la bibliothèque a ouvert en décembre 2011. On a un espace qui est sur trois niveaux de salle de lecture avec une capacité d'accueil d'à peu près 950 places. Pour vous donner une idée, en 2017, la Bulac, c'était 29 000 inscrits actifs, un peu plus de 881 000 entrées sur l'année, sur donc des heures d'ouverture de 10h à 22h du lundi au samedi, un volume de 48 000 prêts et 53 000 communications sur place. Donc des transactions assez importantes auprès de nos lecteurs. Nos collections, comme je le mentionnais, concernent essentiellement des fonds spécialisés sur les langues et les études aréales relatives à l'Asie, à l'Afrique, le Moyen-Orient, les civilisations amérindiennes, Océanie, Pacifique et enfin l'Europe centrale, balkanique et orientale. Donc on a à peu près 1,5 million de documents imprimés, le tout à peu près dans 60% de ces collections sont dans ce qu'on appelle des alphabets orientaux, donc dans des langues orientales. Donc essentiellement, vous allez avoir jusqu'à 350 langues et 80 systèmes d'écriture différents, ce qui, on aura l'occasion d'en reparler assez largement pendant notre présentation, nous pose parfois quelques soucis dans les recherches catalographiques. Voilà en gros pour le plus gros de nos collections. Donc la Bulac et Coa, c'est une histoire qui date également de 2011, puisqu'avant on était sous Millennium, et donc en septembre 2011, quand on a intégré nos nouveaux locaux, le catalogue de la Bulac a migré de Millennium vers la version Coa 3.02. Sur lesquels des développements spécifiques avaient été faits, notamment pour pouvoir communiquer des ouvrages depuis les magasins. On a un module également de génération automatique des cotes, un module de gestion des espaces. Donc pas mal de développements qui pendant longtemps ont un peu complexifié nos montées de version, puisque finalement la première vraie mise à jour de Coa qu'on a pu faire date de février 2016, donc on n'avait rien eu depuis septembre 2011. Ça nous a permis de monter en 3.20 et depuis on a réussi à faire une montée de version par an. Donc on est passé en 16.11 en avril 2017 et dans 3 jours nous passons en 18.05. Ça devait être fait la semaine dernière, mais voilà, on a eu un petit décalage dans les dates. Comme le disait Nicolas, ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas non plus une présentation absolument parfaite à vous projeter. On a eu quelques petites approximations, on va dire, sur ces derniers jours.
C'est les petits bugs de dernière minute qui mettent plusieurs heures à être résolus.
Voilà. Donc, pour nous, ces montées de version, c'est vraiment l'occasion de pouvoir nous raccrocher de plus en plus à la communauté, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'évolutions et de pouvoir aussi donner à la communauté un certain nombre des fonctionnalités qu'on peut avoir. Donc, l'une des nouveautés dont on va parler aujourd'hui, c'est Elasticsearch, puisque... Alors, je vais continuer le temps que Nicolas règle ses problèmes informatiques. Une des choses qui était assez complexe chez nous était donc la recherche dans le catalogue. On avait beaucoup de... Ok, très bien. Bon, on avait pas mal de problèmes qui étaient liés à Zebra et à la multi-écriture. Alors, attends juste un instant. Comment on fait du coup? On met ça?
On met ta présentation si tu veux.
Bon, alors, c'était une présentation que j'ai fait très rapidement ce week-end entre deux barbecues, donc je suis vraiment désolée. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais pas tellement envie de la projeter, mais c'est pas grave. Donc tiens, je te laisse parler du coup de la problématique de Zebra.
Sur Zebra?
Ouais.
Alors, en fait, Zebra, c'est. Je ne pense pas que ce soit un mauvais logiciel. Le problème, c'est que c'est un logiciel que nous n'avons pas vraiment réussi à comprendre. On se disait, on doit pouvoir changer quelque chose, l'améliorer. Mais à chaque fois qu'on touchait quelque chose, il nous pétait à la gueule. Et c'est 20 heures pour indexer tout notre catalogue, parce que nous avons un catalogue de plus d'un million d'exemplaires. Donc, ça a été toujours assez compliqué de faire des choses. Ce qu'on a réussi petit à petit, c'est à réduire les problèmes que nous avions, à mieux le régler, mais ça restait pas satisfaisant. Par exemple, je sais plus les soucis que nous avons, c'est pendant la réindexation à la volée, le processus d'indexation lock le moteur de recherche. Il lui dit maintenant tu fais plus rien et pendant que je réindexe. Et parfois l'indexation elle prend du temps alors que le logiciel est en production, alors que des gens font des requêtes sur Zebra, et donc chacune de ces requêtes elles se mettent en file. Elles attendent que le processus se libère. On a pu monter jusqu'à plus de 18 000 processus. Ça fait beaucoup, beaucoup pour la machine. Ça fait tomber, ça met à genoux le serveur, en fait. Donc, c'est problème que nous... Enfin, c'est un logiciel qui est dur à comprendre aussi. J'ai passé des heures et des heures dans la documentation de Zebra et j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand-chose ni de comprendre quoi que ce soit. Et finalement, le dernier problème, c'est, en tout cas à la Bulac, pour faire une vraie recherche bibliographique, on finissait par conseiller aux lecteurs de faire leur recherche bibliographique sur le Sudoc, et Ecoa, lui, servait plus à la communication, aux transactions, pour les emprunts, etc. Bref, donc il y avait une frustration un petit peu générale autour du logiciel, avec l'idée qu'on pouvait sans doute faire quelque chose de mieux dans nos paramétrages, mais c'était à peu près l'état dans lequel nous étions vis-à-vis de ça. Et je pense qu'au début nous n'avions pas vraiment prévu de passer à Elasticsearch, parce que c'était en cours de développement. On s'est dit tiens, on va essayer. Juste comme ça. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que de base, sans aucun réglage, on s'est mis à avoir des résultats au moins aussi bons que ceux du Sudoc, et dans certains cas meilleurs que ceux du Sudoc. Donc là, il y a eu un enthousiasme énorme au sein de la maison, notamment dans certains domaines, le chinois. Quand vous tapez un truc en chinois, vous aviez quasiment tout le catalogue chinois qui redonnait la réponse. En persan, quand vous tapiez un truc en persan, vous n'aviez rien. Et c'était le cas dans le Sudoc aussi pour le persan. Donc ça tout le monde a dit bon ben c'est bon, il faut y aller, même si la peinture est pas encore fraîche. Mais on a déjà des résultats bien meilleurs que ce que nous avions avec euh, avec Zebra. Par exemple, pour le persan, l'un des soucis qu'il pouvait y avoir, et c'est pour vous donner une idée, pour vous donner envie d'essayer à votre tour Elasticsearch. Si vous voulez, peut-être il y a des gens qui ont déjà essayé. Il faut y aller. En arabe, il y a une lettre qui s'appelle le Aleph Maksoura, qui a exactement le même glyphe en persan, qui est utilisé pour la lettre Y. Mais pour l'ordinateur, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux codes numériques différents. Dans le standard Unicode, on dit que ces deux lettres sont liées, on dit qu'elles se ressemblent, qu'elles ont la même forme. Beaucoup de nos notices en persan et de notices en persan dans le SUDOC sont dérivés depuis la bibliothèque du Congrès. À la bibliothèque du Congrès, ils n'utilisent pas le caractère ye persan, ils utilisent le caractère arabe Aleph Maksoura. Donc quand vous tapez avec un clavier persan, vous tapez des ye, et vous ne trouvez pas, et des ye, il y en a partout, de ce qu'on m'a dit sur le persan. Et donc il y a tout un tas de documents que vous ne pouvez pas trouver comme ça. Avec le module, et pareil dans le SUDOC, avec le module ICU d'Elasticsearch, ça se fait automatiquement et on trouve nos chargés de fonds en persan maintenant trouvent leurs documents alors qu'avant ils ne pouvaient le faire que via WinIB. Je ne sais pas par quelle sorcellerie c'était possible, mais voilà. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est pour la première fois, j'ai vu notre coordinatrice du catalogage devenir exigeante vis-à-vis du SUDOC. Quand on leur a fait remonter le problème, qu'il y avait beaucoup de notices avec des Aleph Maksoura qu'on n'arrivait pas à trouver dans le SUDOC, elle a fini par leur dire « Oui, mais maintenant nous avons quelque chose chez nous qui permet de le faire. » C'est la première fois où nous commençons à avoir des résultats un peu meilleurs que ceux du SUDOC et qui ont poussé le SUDOC à faire des modifications pour que toutes les notices en persan avec Aleph Maksoura puissent sortir si on tape un IE à la place. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement, enfin pour nous, c'est vraiment très, 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 très motivant. On a l'impression que là, c'est cette semaine, c'est mercredi qu'on va monter de version. On est très, très excités parce qu'on a l'impression qu'enfin, on va avoir un catalogue qui va nous permettre de trouver nos notices. Et en trouvant mieux nos notices, on va mieux voir les défauts qu'il y a dedans. On va pouvoir améliorer notre catalogue. Enfin bref, c'est génial.
Du coup, après avoir fait un point sur tout ce qui nous posait problème avec Zebra, on va vous retracer rapidement une petite chronologie de comment ce projet a été lancé côté Bulac. Donc, la première fois qu'on en a entendu parler, c'était au Hackfest qui avait eu lieu en octobre 2016. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là et se souviennent, mais Nick Clements de Bywater Solutions avait fait une installation totalement à l'arrache d'Elasticsearch pour voir à peu près comment ça fonctionnait. Il s'était lancé, c'était vraiment la toute première démo qu'il faisait en live. Et voilà, l'enthousiasme était modéré, plutôt bon parce que ça fonctionnait, ce qui était déjà pas mal, et plutôt négatif, puisque apparemment personne n'avait l'intention pour l'instant de travailler dessus. Du coup, c'est quelque chose qui est resté dans notre esprit, en tout cas Nicolas et moi, un peu lettre morte. On s'est dit, bon bah, tant pis, on verra avec le temps le chemin que fera ce projet du côté de la communauté. Et puis, à peine 6 mois plus tard, lorsqu'il y a eu la journée Koala qui a eu lieu à la Bulac en janvier 2017, il y a Paul Poulain qui avait fait la présentation des nouveautés de la 16.11, dans laquelle Elasticsearch était de plus en plus intégrée. Donc là, je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui avaient assisté et qui se souviennent, il avait pris l'exemple de cacahuètes de mémoire, qui nous permettait de trouver à peu près toutes les notices qui comportaient ce mot-là dans quelque part, en fait, dans les champs notes, enfin dans les champs, donc à la fois sur l'auteur, sur le titre, dans les champs notes, dans les sujets. Donc là, il y avait un vrai, vrai optimisme, parce qu'on se rendait compte que c'est quelque chose qui fonctionnait, voire qui fonctionnait un peu trop bien, puisque la totalité des champs qu'on désignait comme devant être indexés était correctement cherché. Donc ça nous ramenait énormément de bruit, et donc on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait un gros travail qui devrait être fait, notamment au niveau de la pondération. Donc Ça a été quand même une des premières bonnes surprises. Ça a été totalement confirmé lorsque, à nouveau, Nick Clémence de Bywater Solutions a refait une deuxième présentation au Hackfest qui avait eu lieu en mars 2017, où il avait. Donc, il est d'un naturel très enthousiaste, pour ceux qui le connaissent. Et tu te souviens, Sonia, de cette présentation-là où il nous avait montré du coup l'interface utilisateur, la souplesse qu'apportait Elasticsearch dans le paramétrage de l'indexation. Et il avait terminé par une phrase, alors c'était en anglais, en tout cas moi la manière dont je l'ai comprise, c'est « Aujourd'hui, Elasticsearch est correctement implémenté dans Koa, il n'est pas pire que Zebra, donc allez-y, testez-le, parce que de toute façon, ça ne pourra pas être pire. » Nous, c'est totalement l'époque où, en avril 2017, Koa a commencé à péter les plombs, on ne trouvait plus rien du tout.
Ça lui arrivait régulièrement.
Oui, ça lui arrivait régulièrement, mais particulièrement en avril 2017. Donc on s'est dit, eh ben, si Elasticsearch n'est pas pire que Zebra, on n'est plus à ça près. De toute façon, il faut absolument qu'on lance un groupe de travail sur l'indexation pour définir quels sont nos besoins, quel champ on veut décider de pouvoir interroger, puisqu'avec nos collections spécifiques, on a des données particulières qui doivent pouvoir être facilement indexées, facilement trouvables pour que nos usagers puissent exploiter les fonds de la meilleure façon possible. Donc on avait besoin de personnaliser cette indexation. Donc on a décidé de se lancer dans un groupe de travail qui à la base s'appelait donc le GT Indexation, d'essayer de donc définir tous nos besoins et de voir dans quelle mesure Elasticsearch serait capable d'y répondre. Je vous avoue qu'au bout d'une ou deux sessions, le GT s'est vite transformé en GT Elasticsearch puisque ça a été vraiment accueilli avec
Alors, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que les collègues dont nous parlons, c'est un public difficile. c'est pas qu'ils sont méchants, hein, nous les adorons, ils sont vraiment très très chouettes, mais ils sont très très exigeants et ça faisait 10 ans qu'ils étaient au pain sec ou quelque chose comme ça, et là d'un coup on leur sortait des pâtisseries. Et quand on les a vus réagir comme ça, on a compris qu'il se passait quelque chose. Mais vraiment.
Du coup, au cours de l'été 2017, il y a un très gros travail qui a été fait côté administration de Koa et donc avec Cécile et Fanny qui sont ici, qui sont les responsables du pôle flux et données à la Bulac, donc qui sont juste là. Il y a eu un très gros travail qui a été fait pour dépouiller la documentation de Zebra et d'Elasticsearch, de mettre en comparaison les deux mappings de base qui pouvaient exister afin de pouvoir faire des équivalences, puisque les index qui étaient utilisés étaient parfois différents. Donc c'était aussi des nouvelles pratiques qu'il allait falloir instaurer auprès de nos collègues pour voir quelles étaient les données qui étaient indexées, et du coup ça nous a permis de mettre le doigt sur pas mal de choses. On a réussi à comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'on cherchait avec certains index, on avait beaucoup de notices totalement improbables qui ressortaient, tout simplement parce qu'il y avait tout un tas de notes par exemple qui pouvaient être indexées dans l'index titre. Donc ça nous a permis de mettre le doigt comme ça sur pas mal de choses. L'avantage, c'est donc qu'avec Elasticsearch, on a la main sur la totalité du mapping. Donc là, je vais sortir de ma présentation pour vous montrer rapidement à quoi ça sert, à quoi ça ressemble côté administrateur fonctionnel. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Donc je vais plutôt aller ici. Mais du coup, on a vraiment la liste de nos index. Alors excusez-moi, j'étais sur une notice. Donc ici, en allant dans administration, j'ai ici la page de paramétrage d'Elasticsearch. Voilà, donc vous avez ici tous les index qui existent actuellement.
C'est juste pour préciser, parfois la machine peut être un peu lente, c'est une petite machine, parce que c'est notre machine de test, donc elle n'a pas les capacités de la machine de prod.
Voilà. Donc vous avez en bas la possibilité, on n'a pas encore installé le patch qui permet de rajouter un index directement dans l'interface utilisateur, mais ça c'est un développement qui est en cours. Et donc Par contre, ce que vous avez, une fois que vous êtes dans l'onglet biblio, vous avez ici une visibilité sur la totalité des champs qui sont indexés et dans quel index ils le sont. Ce qui vous permet de pouvoir vraiment, avec une grande souplesse, définir les données que vous voulez mettre en avant. Puisque comme vous avez peut-être pu le voir ici, dans l'onglet où sont paramétrés les index, on a ici une pondération qui est mise en fait sur l'index et qui permet du coup de booster dans la recherche libre les notices dans lesquelles votre mot-clé va être trouvé. Donc ce paramétrage-là a été vraiment une bénédiction pour nous.
C'est un développement alors qui n'est pas encore poussé sur la branche master qui a été fait par Alex Arnaud de BibLibre.
Oui, pour la pondération, effectivement, c'est juste une installation locale. Mais...
Pour vous donner une idée du problème, de pourquoi on a besoin de pondération, moi, les tests, je les faisais avec quelque chose qui s'appelle la revue des études slaves. Donc, dans notre catalogue, on a beaucoup d'ouvrages en français. Le mot « revue » et une bibliothèque orientale, nous avons le mot revue, nous avons le mot étude et le mot slave, donc ça apparaît partout. Donc si on tape revue des études slaves, on a énormément de réponses qui sortent. Si on réduit sur le champ titre revue des études slaves, on le trouve, mais c'est un petit peu agaçant.
Du coup, je t'interromps, Nicolas. Donc là, je viens de lancer Revue des études slaves sur notre base de prod. Donc, comme vous le voyez,
toujours
sous Zebra. Donc, comme vous le voyez, on a 1424 résultats et vous pouvez vous accrocher pour
premier
arriver.
Premier résultat, Pierre Legrand.
Voilà. Et je pense que la revue des études slaves est en général à la quatrième ou cinquième page, donc pour le titre de la revue. Là, lorsqu'on lance la recherche sur notre base de test qui est donc sous Elasticsearch, qui est notre base complète, je tiens à le dire pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est représentatif en termes de comparaison de résultats. On est donc sur le premier résultat qui correspond bien à notre revue des études slaves. Les autres notices qui peuvent apparaître, donc vous voyez qu'elles sont déjà en nombre limité, elles apparaissent puisque vous avez ici les titres de contenu, en fait. Il va s'agir de notices de dépouillement, mais d'un point de vue pondération, donc qui est renseigné à ce niveau-là. Le boost, en fait, est mis sur le titre, et c'est ce qui nous permet de remonter de manière incroyable la revue à la place qui est censée être la sienne. On peut faire le test, puisque ça, c'est un des... Voilà, au cours d'une petite mésaventure qu'on a eue, on s'est rendu compte que la pondération n'était pas prise en compte au moment de l'indexation, ce qui nous permet de pouvoir mener des tests.
Elle est faite dans la requête.
En temps réel, voilà. Donc là, si je supprime la pondération à 99 sur l'index title, vous allez voir que... Donc j'attends que ce soit enregistré et je vais relancer ma requête pour la revue des études slaves et vous allez voir qu'on a des résultats qui sont beaucoup, beaucoup moins pertinents.
En fait, il s'agit souvent beaucoup des articles qui sont issus de la revue des études slaves et où le nom revue des études slaves apparaît dans la zone 4. Voilà. Dans la zone 400, pardon.
Du coup, ici, j'ai l'Institut des études slaves, etc. Mais le titre de ma revue, à proprement dit, en tout cas, il n'est pas sur ma première page de résultats.
Donc ça, c'est quelque chose. Alors c'est quelque chose que la BULAC a financé aussi. Il y a un courant en 2017, début 2018, Bywaters et BibLibre ont décidé d'investir beaucoup dans Elasticsearch. Il y avait eu des appels aux aides et nous, comme nous étions dedans, à ce moment-là, nous avons sauté sur l'occasion et nous avons dit que nous voulions vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup la pondération. Et ça donne des résultats qui nous font sauter de joie.
Du coup, si je reprends rapidement ma chronologie, puisque pris dans l'enthousiasme, on a tenu absolument, enfin on a un peu dévié et on voulait absolument vous montrer à quel point c'était enthousiasmant de travailler avec Elasticsearch, mais avant d'arriver à ces résultats-là, il y a quand même eu quelques déboires. Enfin, ça a été une aventure un peu en montagne russe. Puisque...
On n'y a pas toujours cru.
Non, on n'y a pas toujours cru, pour être complètement honnête. Donc, à partir de la rentrée 2017, donc au mois de septembre, on s'est fait une première grosse frayeur en voyant l'état de la documentation communautaire qui pouvait exister côté Elasticsearch, la liste de tous les points noirs qui subsistaient, notamment avec cette absence de pondération. Je me souviens plus qu'il y avait d'autres également qui posaient problème. Les équivalences de caractères qui n'étaient pas prises en compte, l'absence d'un mapping de base Unimark, donc qu'il a fallu qu'on crée en grande partie de notre côté, même si après côté communautaire ça a été
repris par Claire Hernandez.
Voilà. Du coup, c'est vrai qu'on a eu un petit coup de mou en septembre 2017, mais comme on avait annoncé à nos collègues qu'on lançait le GT Indexation, qu'on avait réussi à mobiliser, comme le disait Nicolas, des collègues qui étaient pour le coup vraiment motivés et qui avaient des vraies problématiques, puisqu'ils avaient vraiment, ils étaient dans l'incapacité totale de trouver des documents dans notre catalogue. Donc, on a nos collègues spécialistes du chinois, de l'ourdou, du persan qui sont venus, du pachto. Nicolas s'est chargé de toute la partie hébreu, et puis il y avait aussi un collègue qui se débrouillait pas mal en russe et donc qui pouvait décrypter le cyrillique, qui nous ont accompagnés. Donc on a créé une instance de test qu'on a appelée Balagan. Donc je ne sais pas si certains vous ont un don dans les langues étrangères, mais Balagan en hébreu et puis
en polonais, voilà. En russe sans doute aussi.
Ça veut dire bordel. Donc c'est vraiment une base qui portait bien son nom. L'idée, c'était de pouvoir y faire un peu tout et n'importe quoi pour arriver à pousser le moteur de recherche au maximum de ses limites et de pouvoir vraiment vérifier à quel point il pourrait s'adapter en fait à nos besoins. Donc il y a une sélection de 100 000 notices représentatives de nos fonds qui a été faite, ce qui correspond à peu près à 10% de notre catalogue. Donc il y a la totalité des fonds que je vous ai cités qui ont été chargés, plus deux années d'acquisition, donc les années 2015 et 2016 qui avaient été chargées, de manière à ce qu'on puisse également faire des recherches sur des alphabets latins et puis éventuellement d'autres alphabets qu'on n'aurait pas encore cités, du genre le thaï, le japonais, le khmer, etc. Donc vous voyez que c'est chez nous c'est très très exotique en fait, parfois. Il y a 6 sessions de 2 heures qui ont été menées entre septembre et décembre 2017. Donc pour chaque session, il y a eu un nouveau mapping Elasticsearch qui a été fait. À chaque fois, on prenait en compte les points faibles et les points forts de ce qui s'était passé pendant les 2 dernières heures pour essayer d'ajuster vraiment au maximum de ce qu'on pouvait désirer. L'idée principale pour mener ce projet-là, ça a été de mettre en place des outils communs, donc notamment sous la forme d'un tableur dans lequel on listait toutes les recherches qui étaient faites au cours de ces 2 heures. Et donc pour chacune de ces recherches, on notait le nombre de résultats, ainsi qu'un certain nombre de commentaires, le ressenti du chargé de fonds sur la pertinence de ces résultats, sur ce qu'il lui semblait lui manquer, etc. Donc on s'en servait pour peaufiner le mapping pour la session suivante. Et puis à la session suivante, la même recherche était effectuée de manière à pouvoir avoir un vrai suivi sur la qualité des résultats obtenus avec le temps. C'est ce qui nous a permis d'ajuster vraiment pour pouvoir répondre aux besoins de nos chargés de fonds, comme le disait Nicolas, qui était très très exigeant. On a réussi à avoir leurs applaudissements à la dernière session du GT Indexation. C'est vous dire à quel point c'était pas gagné 6 mois auparavant. Donc vraiment, là-dessus, il y a eu un très très gros travail qui a été fait. Si je passe donc à ma diapo suivante, on a donc en février 2018 le choix de la montée de version qui est fait. Ce sera la version 18.05 à partir de juin 2017. Donc vous voyez, on est encore dans...
Juin 2018.
Ah oui, 2017. Pardon, en juin 2018 pour la version 18.05. Non, c'est tout à fait cohérent. Donc en parallèle de ça, au mois de février, il y a eu des demandes de prestations qui ont été faites. Donc Nicolas les a déjà mentionnées tout à l'heure, avec notamment le travail sur la pertinence, la création d'un mapping de base qui puisse servir de référence à toutes les bibliothèques qui souhaiteraient utiliser Elasticsearch assez rapidement. Donc à la fois pour la version 18.05, mais c'est déjà fonctionnel en 17.11 normalement, puisque nous c'était une des versions qu'on avait envisagées dans le courant de l'automne. Il y a également des demandes de prestations qui ont été faites sur tout un tas de configurations de l'ergonomie côté administrateur. Donc voilà, il y a encore des choses qui n'ont pas été intégrées, notamment le fait de pouvoir créer un index à partir de l'interface utilisateur, mais en tout cas de pouvoir y configurer les facettes, et ça c'est quelque chose qu'on a souhaité également avoir. Et un gros travail sur les autorités avait été demandé, donc ça c'est un travail de longue haleine qu'on continuera en 2018. Une fois que ces prestations ont été lancées, on les a beaucoup testées, Nicolas et moi, sur notre base de test. C'est le moment où j'ai été indexation.
Le Hackfest a été génial pour ça.
Ouais,
on a fait que ça tout le temps.
C'est vrai.
C'était mon meilleur Hackfest.
Bah, c'est vrai que du coup, avoir les développeurs sous la main, et oui, notamment Nick, qui, donc je vous le rappelle, à peine un an auparavant, nous avait fait une présentation sur lesquelles c'était intégré, c'était utilisable, mais c'était quand même loin d'être totalement opérationnel. C'est assez incroyable tout le travail qui a été fait dessus. Donc de pouvoir travailler avec lui à ce niveau-là, ça a été quand même très très apprécié. J'espère que c'est
J'espère qu'il garde un bon souvenir de nous, pardon.
Oui, voilà.
Peut-être on l'a fait trimer, je ne sais pas.
Voilà. Du coup, pour confirmer tous ces ressentis, pour pouvoir intégrer, concernant les tests qu'on avait pu faire, le retour du Hackfest, revalider une dernière fois le mapping qu'on avait défini, il y a des tests grandeur nature qui ont été menés, donc cette fois-ci sur une base complète, celle que je vous ai montrée. Donc je vous rappelle que la version Balagan bordel de notre CoA, c'était seulement 10% de notre catalogue, donc on a réuni à nouveau le GT indexation au printemps 2018, de manière à pouvoir tester, donc là avec notre million de notices, ce que ça pouvait donner. Bon, bah, première session avec des régressions, mais il fallait s'y attendre. Il y avait pas mal de choses qu'on n'avait pas forcément pris en compte, notamment, Nicolas, je te laisse faire un petit point sur le bloc 4.
Ouais, d'accord. Alors, moi, je suis pas bibliothécaire, mais c'est dans le bloc 4, c'est ce qui est utilisé notamment pour le machin bibliographique, la transition bibliographique, et c'est tous les liens qu'il y a entre les notices et qui répètent le champ titre tout le temps. Donc, qu'est-ce qui est contenu, qu'est-ce qui contient, etc., etc. Et donc la chargée du chinois qui Soline Lo Suché voulait que nous les indexions tous, parce que elle faisait ses recherches, ses titres d'articles apparaissaient dans la zone 400, et donc c'était le gros problème, c'est qu'avec cette zone là pour tout ce qui est revu, en fait ça nous mettait un bazar épouvantable, et comme tous ces titres sont indexés dans le champ titre, même si on booste le champ titre, ben, de toute façon on booste tous les articles, du coup on n'a que des titres d'articles qui n'ont rien à voir avec le nom de la revue qui apparaissent en premier. Donc c'est très très agaçant, et il y a eu un tri qui a été fait à ce moment-là, que nous avons proposé à Clara Hernandez. Oui, pour voir si elle trouvait bien ses petits, et quand elle nous a dit qu'elle trouvait bien ses petits, qu'elle était très contente, nous lui avons dit que nous avions fait quelque chose d'horrible, que nous avions enlevé plein de 4XXT. En fait, nous avons enlevé tous ceux qui, de l'index titre, ils sont encore trouvables par ailleurs, mais nous avons enlevé tous ceux qui disent cet article est contenu dans cette revue, parce qu'à ce moment-là, quand vous avez plusieurs dizaines, centaines d'articles qui sont catalogués, vous ne trouvez plus la revue s'ils sont sous le même index. Alors il y aurait la possibilité, mais ça c'est pas pour maintenant, si on veut vraiment mettre, parce qu'après il y a aussi la logique qui veut que comme c'est un titre, il faut le mettre sous l'index titre. Et il y aurait la possibilité plus tard, à l'avenir, de dire que au sein du même index, on booste plutôt certains champs que d'autres. Et donc là, à ce moment-là, nous pourrons réintégrer tous les 4 XXT dedans. Alors quelque chose que j'aimerais dire sur le bilan aussi de ce côté grandeur nature, c'est en termes de chiffres. En ayant en tête que c'est une machine qui est moins puissante que notre machine de prod, enfin qui est moins grosse. Donc je disais 20 heures pour tout réindexer, bibliographie et autorité, 7 heures avec Zebra. Là, 7 heures sous une machine moins puissante pour plus d'un million de notices. Donc ça nous donne beaucoup de souplesse, on peut changer, on peut faire des tests, on est beaucoup plus à l'aise pour faire des tests. Alors la machine n'est plus sur la même machine où il y a l'application Koa, donc si jamais Elasticsearch, ça c'est des choses dont nous pourrons vous parler une fois que nous serons montés de version, de voir comment ça se passe en production, si jamais, quel nouveau problème nous allons avoir, parce que nous aurons des problèmes forcément. Mais quand Zebra partait en sucette et faisait n'importe quoi, et ça nous bloquait quoi ? Parce que c'était sur la même machine. Et Zebra mangeait toutes les ressources de cette machine-là. Là, comme Elasticsearch est sur une autre machine, on se sent un petit peu plus à l'aise. Et l'autre point intéressant, c'est que sur notre instance Zebra, la taille des fichiers d'index faisait plus de 50 gigas. Avec Elasticsearch, on retombe sur une dizaine de gigas, soit à peu près la taille que font nos notices marques en marque XML. Donc nous nous étions posé la question, est-ce qu'en montant d'échelle, parce que nous avons parfois des problèmes d'échelle à partir d'un certain nombre de notices ou de choses, par exemple. Nous avons plus de 500 budgets. Eh bien, essayez d'avoir plus de 500 budgets dans votre Koa. Vous allez voir, ça vous ralentit tout votre module acquisition. Mais ça n'intéresse pas grand monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont plus de 500 lignes budgétaires dans leur Koa. Donc, nous avions peur, comme ça, de ces caps, de ces marches, de ces passages à l'échelle. Et tout s'est très, très bien passé. Ça tient très, très bien la charge. C'est génial.
Du coup, une fois que tous ces mappings ont été revalidés lors d'une dernière session avec le groupe de travail sur l'indexation, il y a eu deux tests de montée de version qui ont été faits. Donc à partir de la fin du mois de mai, Koa Balagan et notre base de Koa Test ont été montés en 18.05. Donc comme je vous le disais en début de session, comme on avait nos développements locaux, Nicolas a fortement commencé à les rattacher. Du coup, côté administrateur fonctionnel, on a commencé la rédaction de tous nos tutoriels pour la montée de version et notamment faire le listing de tous les nouveaux index qui seraient désormais utilisables ainsi que les données indexées pour que nos chargés de fonds soient bien au courant de ce qui allait ressortir lors de leur future requête. Le mois de juin a été l'occasion de former la totalité des agents de la Bulac aux nouveautés de la 18.05 et donc particulièrement la recherche. C'est quelque chose qu'on va approfondir au mois de septembre, mais là on leur a déjà présenté toutes les nouvelles performances en fait qu'on pourra voir d'ici 3 jours. Dans notre catalogue, c'est une vraie évolution pour la quasi-totalité de nos collègues en fait, parce que aujourd'hui en service public, c'est assez compliqué quand un lecteur vient nous voir en nous disant bonjour, j'ai cette cote, est-ce que vous pouvez me dire où je peux la trouver ? Ça coince un peu. Le réflexe, comme le disait Nicolas tout à l'heure, c'est vraiment de passer par Sudoc discrètement, de récupérer le PPN et de venir le coller dans notre Koa en se disant ça y est, on va trouver la bonne notice et on va pouvoir faire la demande de communication dessus. Voilà, ça pouvait être assez tendu à certains moments, surtout quand Zebra commençait à s'emballer, qu'on avait des ralentissements. Voilà, on a eu de grands moments de solitude comme ça face à certains lecteurs, à certaines périodes. Donc on a hâte de pouvoir en sortir. Le retour de ces formations, c'est que nos collègues sont juste ultra enthousiastes à l'idée de cette montée de version. J'en ai même vu en salle de lecture utiliser Koatest pour faire les recherches, récupérer les bibliomembers et venir les coller évoluer dans notre base de prod pour pouvoir rebondir sur les bonnes notices. Donc vous voyez, en l'espace de quelques mois, on a eu un vrai bond en avant. Ça va, je pense sincèrement que ça va nous réconcilier, enfin ça va réconcilier un certain nombre de nos collègues avec Koa, qui commençaient à leur sortir par les yeux à certains moments, puisque outre les problèmes de lenteur qu'on peut avoir sur les modules internes, donc dont Nicolas a parlé tout à l'heure avec notamment le module acquisition, le fait qu'on ait un outil qui soit moyennement performant pour les recherches en langue, qui est censé être notre domaine de prédilection, c'était un petit peu compliqué pour continuer à justifier l'utilisation de Koa auprès d'un certain nombre de nos collègues. Du coup, toutes ces évolutions qu'on a pu avoir côté moteur de recherche, je pense sincèrement que ça va vraiment les réconcilier avec cette utilisation-là.
Peut-être que les derniers nostalgiques de Millennium cesseront de redemander un retour à Millennium ou ce genre de choses.
Qu'on avait encore il y a quelques mois. Hein. On nous disait encore que Millennium, c'était mieux. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé le GT indexation avec les premiers mappings Elasticsearch, qui pourtant n'étaient pas parfaits, on ne l'a pas entendu.
Pour vous dire, les collègues exigeants dont nous parlons, c'était des nostalgiques de Millennium.
Et donc, voilà, l'objectif dans 3 jours, c'est la montée de version. Donc, je ne sais pas dans quel état on sera à la fin de la semaine. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vous faire un retour immédiat. Peut-être dans le courant de la semaine prochaine, on vous dira comment ça s'est passé sur la liste Koala, si jamais ça peut vous intéresser. Toujours est-il qu'après ça, le travail n'est pas fini, puisqu'il y a encore pas mal de choses qui seront à faire. On sait qu'on va avoir quelques déboires d'ici l'été. Alors, à cause d'Elasticsearch, ou pas, en tout cas on va tout faire pour essayer de régler les différentes approximations qu'on pourra trouver au moment des recherches dans le catalogue une fois qu'on l'aura passé en production, puisqu'il y a aussi une chose qu'on n'a pas testée, c'est l'utilisation massive d'Elasticsearch de manière simultanée, puisqu'au maximum on a été peut-être une dizaine à travailler en même temps sur cette même instance de test sous Elasticsearch, donc ce sera aussi un beau challenge de voir à peu près ce que ça donne.
Alors, d'une certaine manière, ce qui peut être rassurant, c'est de se dire que c'est aussi, j'ai pas regardé pourquoi était baptisé ce logiciel, mais c'est que Elasticsearch, c'est un moteur de recherche qui a été monté pour des gros, vraiment des très très gros jeux de données avec beaucoup d'interactions, et que finalement nous, ce que nous avons dans nos bibliothèques, c'est rikiki par rapport à ce qu'il est utilisé, à ce qu'il est utilisé normalement. Je crois que pour Bywaters ou Biblibre qui veulent passer leur client dessus, un de leurs buts, c'est de n'avoir qu'une seule instance d'Elasticsearch pour tous leurs clients, parce que les bases sont tellement petites que ça peut être tenu par une grappe de 3 machines. Donc c'est de 3 machines ou plus. Donc nous n'avons pas fait de grappe encore, n'avons pas eu l'occasion d'essayer, et une seule machine de toute façon fonctionne bien, mais comme de toute façon c'est intéressant à dire, c'est un logiciel général, c'est pas un logiciel de niche comme Zebra. Zebra, il y a peu de gens qui savent comment il marche vraiment, il y a peu de gens qui sont capables de pouvoir l'utiliser, et en dehors du monde des bibliothèques, ça n'intéresse pas grand monde. Elasticsearch, c'est un logiciel plus généraliste qui est utilisé par d'autres gens, donc si vous travaillez dessus, c'est quelque chose que vous pourrez valoriser en dehors des bibliothèques, et pour un informaticien, ça peut être intéressant. Et ensuite, si vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais passé des heures dans la documentation de Zebra sans rien comprendre, bon, Elasticsearch, j'ai passé une après-midi dessus en faisant les tutoriaux pour l'installation, pour les tests, etc. Je pense que typiquement un bibliothécaire bricoleur comme Silver, il sait tout de suite, enfin au bout d'une après-midi, sait tout de suite comment ça fonctionne Elasticsearch, et il est capable de faire ses requêtes directement sur Elasticsearch, alors que moi, Zebra, je pleurais des larmes de sang à chaque fois. Je vais retrouver de la documentation pour savoir comment faire. Tout est facile à trouver. Si vous tapez des recherches sur Elasticsearch dans Google, il y a énormément d'utilisateurs, donc il y a énormément de gens qui ont des problèmes et énormément de gens qui répondent à ces problèmes-là. Donc ça, c'est aussi très intéressant.
Oui. Non, bah du coup, voilà, nous, on va continuer la formation de nos usagers à partir de septembre pour que tout le monde ait une bonne base désormais de comment dire, de connaissances sur le renseignement bibliographique, puisque c'était un des points sur lequel, voilà, en termes de formation interne à la BULAC pour le service public, on n'avait pas mis l'accent dessus pendant ces dernières années, étant donné que de toute façon, même si on avait des collègues qui étaient aguerris à la recherche bibliographique, on avait un outil qui ne nous permettait pas de pouvoir répondre convenablement à nos demandes de lecteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de pallier à partir de septembre. Et puis toute l'année, donc toute la... La fin de l'année 2018 et 2019 sera consacrée aux autorités de notre côté, puisque c'est quelque chose qu'on avait
négligé.
Voilà, tout à fait. Qu'on avait négligé également à cause de Zebra. Enfin, pas entièrement à cause de Zebra, mais en partie, on avait arrêté de mettre un certain nombre d'efforts sur la recherche des autorités et la tenue correcte, on va dire, de nos autorités dans COA, puisque comme Zebra les trouvait pas, en fait, on avait arrêté.
Alors, donc l'avantage, maintenant Elasticsearch les trouve, nous nous rendons compte que nous avons plein de doublons, qu'il y a des tas de problèmes, et donc voilà. Mais bref, maintenant nous allons pouvoir régler les problèmes.
Là, on n'a pas le choix en fait, parce que voilà, question crédibilité, c'est un peu compromis. Et puis, on travaillera également sur la révision du chargeur SUDOC, puisqu'il y a certaines petits points qui sont pris en compte.
Oui, notamment éviter les doublons d'autorité.
Voilà. Et je ne sais plus ce que j'avais sur ma diapo 13. Un bilan, mais en fait pas.
Je crois que nous avons tout dit au cours de...
Non. Oui. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse quelques... Je sais pas. Est-ce qu'on a débordé
Peut-être qu'il faut que nous nous arrêtions.
Oui. Oui, il y a des questions.
Il y a déjà une question sur Twitter.
Ah.
Oui.
Oh.
Mais j'étais diffusée sur Internet, j'étais même pas au courant. Oui. Salut Julien. Non. Il y avait
un projet de
portail, mais qui coinçote, et donc pour l'instant ça n'a pas avancé. Nous utilisons toujours beaucoup l'OPAC, et dans le projet de portail, a priori, il me semblait que c'était quelque chose un peu comme pour ce genre de choses, nous essayons de prendre modèle sur Rennes 2, justement, parce que nous trouvons qu'ils sont très très forts, et donc d'avoir un outil de découverte et qui ensuite, par rebond, emmène sur l'OPAC. Nous n'avons pas ce genre de projet pour l'instant. Oui, Yves ?
C'est dans la préférence système Search Engine. Donc après, il faut qu'il y ait une machine Elasticsearch qui soit installée dessus. Mais une fois qu'elle est installée et que les notices sont réindexées, on peut très facilement sauter d'un moteur de recherche à l'autre. À partir d'ici, c'est un des exercices qu'on avait fait pendant un DGT. Alors il me semble que ça devait être le troisième, où on essayait en parallèle, où on avait commencé en fait avec Zebra, et puis on avait sauté ensuite sous Elasticsearch pour comparer au sein de la même session la différence de résultats qu'on pouvait obtenir.
Pour notre installation, alors nous installons toujours depuis les sources, et même si nous réfléchissons de plus en plus à faire nos propres paquets, parce que nous avons des développements spécifiques qui fait que nous ne pouvons pas utiliser une version purement communautaire, et je ne sais pas où ils en sont. Du coup, j'ai eu tendance à moins suivre ce qui se faisait au niveau du pactage, et je ne sais pas s'ils ont fait des pactages pour Elasticsearch encore. Donc ce que nous avons utilisé jusque là et qui marche, c'est ce qu'il y a dans la doc du wiki COA, qui prend les sources APT du projet Elasticsearch, et de se brancher sur la branche, je crois que c'est Elasticsearch 5.6, quelque chose comme ça, c'est la branche 5 d'Elasticsearch que nous avons. Il y a un travail qui est fait pour passer à la branche 6, mais qui n'est pas encore enfin J'ai l'impression que je ne sais pas où ils en sont dans quoi, mais effectivement, à un moment ou un autre, nous passerons à Elasticsearch 6. Exactement. Si tu recherches Koa Wiki et Elasticsearch, on devrait tomber sur la page. C'est une toute petite entrée en fait qui donne le nom. Alors je sais pas comment c'est en langage Elasticsearch, si on appelle ça un nom de nœud ou non, c'est pas un nom de nœud. Enfin le nom de la base et l'adresse du serveur et le port. Donc toutes les communications, alors ça se fait sur le port 9200 c'est en API REST avec du JSON.
Tiens, je sais pas si tu le trouves exactement.
Non, le mapping il est dans la base de données. Pour l'instant, pour le mapping, c'est un fichier YAML YAML. C'est un type de fichier pour écrire des structures de données qui peut être rechargé dans la base de données, mais alors ce que ça ne sait pas encore faire, donc ce fichier YAML il va se trouver ça a été poussé bientôt, il va se trouver dans les fichiers ETC de Koa, et je crois qu'il y aura la possibilité à un moment de pouvoir l'écrire à partir des modifications qu'on fait depuis la base de données, mais à partir du moment où on l'a chargé dans la base de données, on peut faire les modifications via les formulaires. Alors pour l'instant, il y a encore des limitations. Ce que montrait Séverine, on ne peut pas créer de nouveaux index, par exemple. Il y a des choses sur les facettes qui sont écrites. Alors on peut manipuler plus facilement les facettes, parce que c'était vraiment l'horreur avec Zebra. Il fallait toucher à des tas de fichiers pour ajouter des facettes. Mais il y a encore 2-3 choses écrites en dur dans le code. Mais je pense que petit à petit, on pourra quasiment tout paramétrer via l'interface graphique. Et ça aussi, c'est quelque chose de chouette, parce que ça passe de plus en plus ce type de travail, de compétences du côté fonctionnel de la bibliothèque. Les administrateurs fonctionnels je pense que ça va élargir le champ au-delà de ceux qui sont un peu geeks, un peu bricoleurs. Maintenant, beaucoup plus de gens vont pouvoir réfléchir et manipuler leurs index, comment ils veulent que leurs documents soient indexés, etc.